Les voix de l'Amérique. Émission de Jacques et Dolly Le Goff. Bonjour. Cette nouvelle émission consacrée à la littérature américaine est dédiée à deux auteurs qui ne sont pas exactement contemporains, mais qui présentent des ressemblances certaines. Dans leurs œuvres, nous quittons les berceaux de l'Amérique. Nous nous enfonçons dans l'intérieur des territoires. Nous sommes dans le Far West et nous avons la peinture d'une société violente où les gens mènent une vie très dure. Il faut souligner tout de suite que les deux auteurs, Mark Twain et Jack London, dont nous allons parler, sont bien plus que des auteurs de romans d'aventure pour enfants qu'on nous a montrés en France en particulier. Et nous essaierons de montrer l'importance de leur œuvre. Donc, Samuel Langhorne Clemens, dit Mark Twain, est né en 1835. Il va venir très vite sur la front, ce qu'on appelle la frontier, c'est-à-dire ce qui délimitait les terres civilisées et les autres. Il viendra en 1839 à 4 ans. Son père s'installe à Hannibal, sur les bords du Mississippi, et c'est là qu'il va grandir jusqu'à l'âge de 12 ans. Cette vie sur les rives de ce grand fleuve sera racontée dans deux œuvres principales, Tom Sawyer et Huckleberry Finn.
Alors, dans ce village de l'Ouest, la vie est rude. C'est un monde de violence, de lynchage et d'esclavage, puisqu'il ne faut pas oublier que l'État du Missouri est un État esclavagiste, alors qu'à la même époque, dans le Nord, d'autres États sont abolitionnistes. Alors, un exemple, le père de Mark Twain, lui, avait un esclave. Et Mark Twain a 6 ans quand son père siège dans un jury qui condamne. C'est incroyable, ça. À 12 ans de travaux forcés, 3 abolitionnistes blancs accusés d'avoir suggéré à un noir, on disait un nègre à l'époque. Hein,
On disait nègre, oui.
De s'échapper vers les États du Nord. Et ce garçon, vers l'âge de 12 ans, lui, il va devenir apprenti typographe, donc il ne va pas aller longtemps à l'école. Hein. À 18 ans, il quitte Hannibal et pendant plusieurs années, il bourlingue à travers le continent. D'ailleurs, beaucoup d'écrivains américains auront un petit peu ce parcours, on le verra plus tard. Alors, à 21 ans, il rencontre un pilote de bateau à aubes qui va vraiment changer le cours de son destin. Vous savez, c'est ces grands bateaux qui montent et qui descendent le Mississippi avec cette énorme roue qui tourne. Il convainc son nouvel ami, le pilote, de le prendre en apprentissage. Et il devient donc lui aussi pilote et voyage sur le Mississippi entre St. Louis et New Orleans. Voyage de plusieurs milliers de kilomètres, voyage dangereux, à cause des hauts fonds, des crues, des tornades, des écueils, du brouillard. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour échouer. Hein. Sans compter la violence qui pouvait régner à bord du bateau, parce que les gens se bagarraient hein, pour des tas d'histoires d'argent, etc. Cette vie de pilote, c'est la vie dont rêvait Mark Twain. Hein. Et le Mississippi, ben, dans son œuvre, sera le héros principal du roman dont nous avons choisi de parler aujourd'hui. Hein. Le courant du Mississippi est le fil même de ce roman picaresque et cette vie au fil de l'eau est l'image de la liberté de l'errance du roman. Quoi.
Et il faut remarquer que le pseudonyme choisi par Samuel Clemens montre bien sa passion. En effet, Mark Twain, cela veut dire deux brasses de fond. C'est le cri que le sondeur lance au pilote pour l'avertir des hauts fonds. Mais la guerre de sécession, The Civil War, 1861-1865, va interrompre sa carrière de pilote, puisque la navigation, voie de transport naturelle entre le Nord et le Sud, s'interrompt. Il file vers l'Ouest, la Californie d'abord, puis le Nevada. Il est successivement vendeur de matériel de mine, mineur dans les mines de quartz et chercheur d'or. Mais ce sont ses talents de conteur et d'humoriste qui vont le distinguer. Il publie dans un journal de l'Ouest un conte folklorique qui va avoir un grand succès et en 1865. Il revient vers l'Est, il devient journaliste, voyage en Europe, publie un volume qui s'appelle « The Innocents Abroad », « Les innocents à l'étranger », qui, dans lequel ce candide américain ridiculise les subtilités et les conventions du monde européen. Et c'est un succès total. Alors désormais, il imprime ce qu'il veut. Il devient l'écrivain le plus populaire, et il est resté d'ailleurs, des États-Unis. Le peuple le reconnaît comme l'un des siens. C'est un autodidacte, il n'a pas été formé dans les universités. Il connaît la vie des pionniers, des chercheurs d'or, des défricheurs. Il est tourné vers l'Ouest, et non vers l'Europe. Et ce qui fait la valeur des deux œuvres dont nous avons, ce que nous avons signalé, c'est-à-dire qu'il a su traduire en anglais la réalité de la langue américaine, qui n'est pas tout à fait la langue anglaise. Il utilise toutes les ressources des patois de l'Ouest. Il est l'ancêtre du style parlé, direct, concret, le style journaliste, rapide. Et c'est pour cela que les écrivains américains du XXe l'ont reconnu comme leur maître, en particulier Ernest Hemingway. En 1870, il se marie avec une dame issue de la bourgeoisie et qui ne comprendra jamais la valeur de son œuvre, qui essaiera toujours de l'expurger. Et en même temps, parce qu'il faut gagner de l'argent, il a de nombreuses tentatives commercial pour assurer un train de vie. Un train de vie de 100 000 dollars par an. Et finance différentes machines. Et on peut le comparer à Balzac, parce qu'il peint en roman les folies de l'homme d'affaires. Et la fin de sa vie est assombrie parce que sa femme, puis ses trois filles meurent. Et il meurt lui-même en 1910.
Alors, il faudrait parler justement de ces œuvres-là, et on va parler d'abord des aventures de Tom Sawyer. Il publie ses aventures en 1876, et ça met en scène deux enfants qui, en jouant, assistent à un meurtre. Alors, il y a eu plusieurs versions traduites en France, hein, mais c'était des versions très expurgées par rapport au contenu réel du texte. Hein. Alors, le thème, c'est que ces enfants-là, c'est eux-mêmes vont parvenir à démasquer le coupable. Le thème, c'est celui de la supériorité de l'innocence de l'enfance sur l'expérience adulte qui n'est pas vraiment à l'avantage des adultes. Ce livre a un grand succès et, devenu son propre éditeur, Mark Twain publie en 1884, un peu la suite, hein, si ça passe, les aventures d'Huckleberry Finn.
Ce qu'il faut souligner, c'est que, bien sûr, c'est publié en 1884, mais l'action des deux romans se situe bien antérieurement, dans les années 1840, qui correspondent en fait aux années de l'enfance de Mark Twain.
Alors, c'est une œuvre très importante et fondatrice, hein, Huck. Ce jeune homme, hein, cet enfant, s'enfuit de son village pour échapper à son père, alcoolique et violent, et aussi pour échapper à l'éducation très stricte de la veuve Douglas, qui s'occupe de lui. Au cours de sa fuite sur le fleuve, il retrouve Jim. Alors, Jim, c'est un esclave de la veuve Watson, qui s'est enfui car il est menacé d'être vendu, comme d'autres d'ailleurs, à la Nouvelle-Orléans. Hein,
donc séparé de sa femme et de ses enfants, car c'était leur sort. Ils ne s'appartenaient pas. Ils appartenaient à leur maître. Voilà.
Alors tous les deux, sur un radeau, ils voguent la nuit en se cachant le jour. Hein. Ils souhaitent se rendre dans l'Illinois en passant du Mississippi au fleuve Ohio. Au confluent se trouve la ville de Cairo, mais le brouillard fait qu'ils manquent le confluent. Hein. Et comme ils ne peuvent revenir en arrière à cause de leur radeau, hein, ils ne peuvent pas le diriger, hein, ils continuent de descendre le fleuve vers New Orleans. C'est une navigation semée d'embûches. C'est ainsi qu'un vapeur de nuit qui ne les voit pas coupe le radeau en deux. Ils échappent à la mort de justesse et Huck atterrit dans une famille qui s'appelle les Granger Ford.
Les Granger Ford, des aristocrates. Et voilà ce qui s'oppose l'aristocratie, ceux qui avaient des grandes terres, des territoires importants au sud, et les pauvres. le propriétaire avait des tas de fermes et plus de 100 nègres. Quelquefois, une bande de gens arrivait à cheval de 10 ou 15 000 à la ronde pour passer 5 ou 6 jours. Ils en faisaient des fêtes partout, sur la rivière. Ces gens étaient presque toujours des parents de la famille. Les hommes n'oubliaient jamais leurs fusils. Ah, pour des gens bien, c'était des gens bien. Voilà les Granges Ford, exemple donné par Mark Twain. Il rencontre aussi deux escrocs. Des escrocs, c'est absolument inoubliable, car c'est des larrons. Et l'un se fait passer pour duc et l'autre même pour le dauphin Louis XVII. Et ils imaginent des escroqueries incroyables, tour à tour. Prince, médecin, acteur, prêcheur. Je dois faire une petite. Il faut parler des confessions issues du calvinisme du Sud, les baptistes par exemple. Et les voilà arrivés dans un camp de prêcheurs. Un nègre malade qui prenait le soleil dans une cour nous apprit que tout ce qui n'était pas trop jeune, trop vieux ou trop mal en point était parti à un camp de prière. À 2000 de là. Un millier de gens au moins étaient venus, de 20 000 à la ronde. Il y avait de grandes huttes faites de poteaux supportant des branches en guise de toit, où l'on vendait de la limonade. C'était sous les huttes du même genre que l'on prêchait. À la première hutte, le prêcheur commençait un cantique. Il en chanta deux lignes et tout le monde entonna. C'était beau de les entendre, tant ils étaient nombreux et tant ils y mettaient leur cœur. Donc, c'est aussi au cours de ce voyage que Huck va prendre peu à peu conscience du sort des esclaves. Et dans ce sens, on peut dire que c'est un roman d'apprentissage. La fin du roman est un peu, disons, arrangée par Mark Twain. Il fallait que ça finisse bien. Normalement, quand Huck et Jim sont arrêtés, leur sort, en principe, devrait être réglé. La pendaison pour Jim et la prison pour Huck. Mais, rebondissement grand guignolesque. En fait, Tom Sawyer réapparaît et dit que Jim avait été déclaré libre par la veuve Watson sur son lit de mort. N'empêche que ce roman est un livre essentiel, car le radeau qui emporte Jim et Huck, c'est la seule île de pureté dans un univers corrompu et violent.
Alors maintenant, on va parler de cet autre écrivain qui est assez connu en France sous un aspect plutôt littérature pour la jeunesse. Il s'agit de Jack London. Alors là, comme pour Mark Twain, il y avait un peu un malentendu sur les contenus des œuvres de ces deux écrivains. Alors, Jack London, c'est une autre grande figure de la littérature populaire de la fin du 19e et du début du 20e siècle aux États-Unis. Alors, il s'appelle en fait John Griffith. Dit Jack London, c'est son nom de plume. Il est né en 1876 à San Francisco. Alors lui, c'est un Californien. Et il est mort à Glen Ellen, toujours en Californie, en 1916. Il est mort assez jeune, finalement. Il est surtout connu en France pour ses romans d'aventure, mais beaucoup moins pour d'autres aspects de son œuvre qui en font un pionnier du socialisme américain. Alors avec des romans comme « L'appel de la forêt » paru en 1903, « Cro-Blanc » en 1906, on l'a souvent considéré comme un écrivain pour la jeunesse, comme un auteur de récits d'aventure. Mais c'est oublié par exemple des livres assez étranges comme « Le talon de fer » qui est un roman d'anticipation, une critique au vitriol du capitalisme sauvage déjà, où London se fait le prophète d'une révolution anarchiste. Assez extraordinaire ça. Des années après sa parution, la parution de ce livre, et la mort de l'écrivain, Trotsky écrira à la fille de London son admiration pour l'auteur de ce brûlot anticapitaliste et totalement désespéré. Le livre m'a frappé par la hardiesse et l'indépendance de ses prévisions dans le domaine de l'histoire. London s'affirme magnifiquement libre des illusions réformistes et pacifistes. Dans son tableau de l'avenir, il ne laisse absolument rien subsister de la démocratie et du progrès pacifique. Nous ne pouvons pas nous incliner devant l'intuition puissante de l'artiste révolutionnaire. C'est assez extraordinaire.
C'est Trotsky,
qui dit ça. Hein. Ce serait mettre de côté, évidemment, si on continue dans son œuvre, des œuvres profondément autobiographiques comme Martin Eden ou John Barleycorn, où sont abordés les thèmes du déterminisme social, mais aussi de l'alcoolisme en particulier, où il compte sa vie d'authentique aventurier.
Eh bien, je vais parler de sa vie. Donc, il est né à San Francisco et il a dû très jeune survivre dans le San Francisco de la ruée vers l'or. Très tôt, il croise ce qu'il appelait John Barleycorn, c'est-à-dire l'alcool. Cet alcool qui permet de se faire des amis dans les bars, de devenir un homme. Il a exercé des tas de petits métiers, vendeur de journaux, ramasseur de quilles dans sa bowling, chasseur de chats pour leur peau, pilleur d'huîtres, chasseur de phoques au Japon, avec des périodes de chômage qui l'obligent à vendre le peu qu'il a pour manger. En 1894, il rejoint ce qu'on a appelé l'armée rebelle des chômeurs dans la grande marche pour Washington, une période difficile où les travailleurs étaient vraiment révoltés. En 1897, il se fait chercheur d'or en Alaska, d'où il revient fauché et ayant contracté le scorbut. Mais tout au long de ses années de galère, il lit beaucoup. C'est un autodidacte, comme Mark Twain. Il lit Kipling, mais un peu aussi bien Kipling que Milton, que Marx, que Nietzsche. Il entreprend même, chaque fois qu'il le peut, quelques mois des études supérieures, mais il ne peut jamais aboutir. À 23 ans, il commence une carrière de pigiste, à 10 dollars les 1000 mots et tape ses textes le soir sur une vieille machine à écrire, dont il parle avec humour dans un de ses livres. Il exploite ses souvenirs d'aventurier dans un style qui renverse les conventions habituelles du roman, comparons avec Mark Twain. Son premier vrai livre sera Le Fils du Loup en 1900. En une dizaine d'années de travail acharné, il se hisse au premier rang des romanciers populaires américains, produisant à un rythme absolument inégalé une série de romans à succès, dont L'appel de la forêt, Le loup des mers, Crocs blancs et Le talon de fer. En 10 ans, il gagne $1 million or. Ça, c'est l'Amérique. Sans cesser de dénoncer les ravages causé par le capitalisme sauvage, mais en vivant dans le luxe, sorte de playboy du socialisme. Devenu grand reporter de presse, il enquête sur les taudis de Londres, et ça, il a fait une très belle œuvre sur les taudis de Londres, tout en se faisant construire une magnifique villa sur la côte californienne et un superbe yacht de croisière. Il dénonce, tout en étant fasciné par le pouvoir que donne l'argent. Et cette création prolifique est plus motivée, semble-t-il, par une volonté de revanche par rapport à un passé de misère, de souffrance, plutôt que par un véritable idéal collectif. Au travers de ces histoires animalières, on devine, sous le thème de la meute, une fascination pour l'instinct primitif de survie.
On a choisi, parmi la considérable production de Jack London, deux des œuvres que nous avons évoquées dans notre introduction, à savoir L'appel de la forêt et John Barleycorn.
Pour montrer les deux aspects. Alors, L'appel de la forêt, que beaucoup de jeunes ont pu lire, s'inspirant de son expérience de chercheur d'or dans le Klondike, où il a pu connaître cette vie rude, pleine de dangers, cette vie des aventuriers, qui, comme lui, espérait la richesse en affrontant les conditions climatiques tout à fait extrêmes de l'Alaska, et souvent très, très mal, très peu équipé, peu familiarisé avec la conduite des traîneaux tirés par des chiens qu'il fallait maîtriser, soigner, nourrir. Et Jack London nous conte l'histoire d'un chien loup domestique, volé à ses maîtres et vendu comme chien de traîneau.
Et dans ce livre à la fois d'aventure, mais aussi initiatique, hein, il y a quelque chose, il y a un message derrière. Le narrateur, qui n'est autre bien sûr que Jack London lui-même, se glisse dans la tête du chien. Et il nous livre son vécu lorsque jeté brutalement dans l'univers brutal qui caractérise la vie de chien de traîneau, il doit s'adapter ou mourir, dominer ou se soumettre. Alors là, c'est aussi la vie des hommes, ça, dans cet Alaska terrible. Et nous voyons au fil de ce récit saisissant et plein de détails, mais vraiment précis sur les conditions de vie des chiens de traîneau et de leur maître, comment peu à peu Buck, le chien calme et bien élevé au départ, va devenir un animal rusé, combatif, devenir celui qui mène le traîneau et qui, au fil du temps, suite à la rencontre d'un loup, va retourner à l'état sauvage et rejoindre la meute pour en devenir le chef, abandonnant la société des hommes.
Jack London avait été profondément marqué par les chiens de traîneau qu'il avait rencontrés lors de son expérience. On sait, historiquement, que le chien domestique ne l'a été qu'après une longue période de cohabitation des premiers hommes avec les loups qui les suivaient de loin, entre autres pour glaner des restes de nourriture. On sait aussi que l'inverse se produit et que des chiens domestiques abandonnés à eux-mêmes finissent par retourner à l'état sauvage. Donc, au travers de ce livre, au-delà du récit d'aventure, Jack London engage une réflexion sur les origines, que ce soit pour les animaux, mais aussi pour l'homme. Dans Cro-Blanc, c'est le chemin inverse de l'appel de la forêt, c'est-à-dire c'est le chemin inverse que fait le chien qui en est le héros. De sauvage, Cro-Blanc a choisi de revenir parmi les hommes. Vous voyez les deux aspects.
Alors, dans le second ouvrage, on a mentionné le titre tout à l'heure, il s'agit de tout autre chose, ce qui montre la diversité des sujets abordés par Jack London. Alors, John Barleycorn, c'est un récit autobiographique d'un genre tout à fait particulier et particulièrement poignant, malgré des passages qui sont empreints d'humour et de droserie. D'abord, pourquoi ce titre ? Comme une sorte de pied de nez de l'auteur à son addiction à l'alcool. Le titre du livre fait référence à une chanson populaire anglaise qui compte les mésaventures d'un personnage qui, à force de boire, est transformé en bière. Bizarre, hein ? En langage populaire, John Barleycorn, c'est l'alcool, le whisky, la consolation du pauvre, confronté aux duretés de la vie. On est en présence d'un livre qui est le fruit de la confrontation de Jack avec lui-même en cette année 1912, quand il se met à écrire, face à face, qui eut pour témoin un autre auteur dont on nous a parlé bien avant.
Nous avons parlé dans une précédente émission, Edgar Allan Poe. Et ça aussi, ça va se révéler fatal à un autre buveur, que son style apparent tant à son modèle en littérature, c'est-à-dire Poe, Ernest Hemingway.
Il y décrit comment, dès l'âge de 5 ans, voyant les adultes boire, il va goûter à la bière qu'il apporte à son père dans les champs. Puis à 7 ans, dans une fête, de peur de se faire tabasser par un plus grand d'origine italienne, je crois, qui, s'il ne le fait pas, il boit du vin à s'en rendre malade. Et ça commence comme ça. Il ne dit jamais avoir aimé l'alcool en soi. Finalement, il n'aime pas. Le goût ne lui plaît pas tellement. Mais qu'ensuite, adolescent, pour être accepté dans le cercle des hommes, pour être inclus dans la communauté masculine, il rêvait d'avoir comme eux son ardoise au bar. Elle, il y fait le terrible apprentissage du « c'est ma tournée ». Il pense que boire ensemble resserre les liens de camaraderie et il aime sûrement l'euphorie passagère provoquée par l'alcool qui semble libérer les énergies et rend optimiste.
Cependant, il lui arrive d'observer des moments de grande sobriété, en particulier lorsqu'il navigue. On a parlé du yacht qu'il avait et il a beaucoup bourlingué sur les mers. Mais au retour, quand il retrouve la terre ferme, la tournée des bars reprend. Et John Barleycorn, son âme damnée, omniprésente tout au long du livre, dont il dit « John Barleycorn est d'abord et avant tout l'illusionniste qui inverse les données du réel, puisqu'il fait d'un lâche un courageux et rend méchant les doux. » Et c'est John Barleycorn qui lui tient compagnie. Durant ses jeunes années et sa vie marginale, il a pu observer la société et les mensonges touchant à la soi-disant dignité du travail. Certains métiers n'ont pas de dignité. Exploitation, mise au rencard des plus faibles, voilà ce qu'il avait retenu de son immersion concrète dans le monde ouvrier. Et il dit très justement, les bars étaient les clubs des pauvres, mais aussi un lieu où l'on s'informe. Il ajoutait, ce sont les hommes bons que John Barleycorn tue à petit feu.
Il y a une profonde sincérité et un réel courage de la part de l'auteur, parce qu'il n'était pas obligé de faire ça, hein, d'oser décrire et d'analyser ce combat entre lui et ce monstre qu'est John Barleycorn. Et d'ailleurs, Jack London mourra
des suites de l'alcoolisme.
Il analyse avec une grande lucidité où se trouvent les racines de l'alcoolisme. Sur 1 million de buveurs, pas un n'a commencé à boire tout seul. Tout alcoolisme est d'origine sociale et est accompagné d'un millier d'implications sociales. Et de conclure, j'aurais tant voulu que mes ancêtres aient banni John Barleycorn avant ma naissance.
Eh bien, nous voyons, après avoir comparé Mark Twain et Jack London, ce qui nous a fait que nous avons choisi de les rapprocher, eh bien, ce sont déjà des gens de l'Ouest. Nous avons parlé beaucoup de l'Est américain avec des auteurs qui étaient vraiment issus de l'Est. Maintenant, il s'agit de la vraie vie, de la vie de l'Ouest américain. Et c'est cela qui les rapproche.
Tell my baby to come.